Je vous remercie pour cette invitation. Nous aurions dû faire cette intervention à deux voix avec ma collègue Véronique Ginouves, qui malheureusement n'a pas pu être présente pour des impératifs professionnels. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser, mais nous avons fait cette présentation ensemble et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. De la collecte à la diffusion, quelles sont les questions juridiques et éthiques qu'on peut se poser en matière de données de la recherche ? Vaste sujet. En 30 minutes, quasiment impossible de répondre à toutes vos questions, mais l'idée, c'est de vous donner des pistes de recherche d'informations et de vous expliquer comment fonctionne le groupe de travail que nous pilotons avec Véronique et comment nous avons essayé d'aborder de manière très pragmatique. L'enjeu, c'était effectivement d'avoir des réponses juridiques, mais de ne pas faire que le droit devienne un obstacle au quotidien pour nos missions de collecte, de diffusion et de valorisation des données. Ce groupe de travail éthique et droit, il est soutenu par deux pôles documentaires. Tout d'abord, la phonothèque et le pôle image son pratique du numérique à la MMSH d'Aix-en-Provence, au sein duquel travaille et qui est même dirigé par ma collègue Véronique Ginouves. Et puis le deuxième pôle, le service commun de la documentation de l'Université d'Aix-Marseille, où moi-même, je suis en poste en tant que conservateur en charge des missions de documentation électronique et des questions d'archives ouvertes et d'open access, et plus précisément des questions juridiques. Et donc, ensemble avec Véronique, depuis 2015, nous coordonnons ce groupe de travail. Je vais revenir sur l'historique de ce groupe de travail et vous en faire une présentation rapide. Comme vous l'avez signalé, c'est un réseau qui est national et qui est interdisciplinaire. L'enjeu, c'était de partir des attentes, des besoins que rencontrent les chercheurs, d'y associer des juristes, et également des professionnels de l'information scientifique et technique. Un trio de choc que vous connaissez bien dans vos missions au quotidien, et de voir comment on peut partager nos expériences sur les données, comment on peut essayer ensemble de répondre aux questions à la fois juridiques, mais aussi éthiques qu'on rencontre dans des projets. Pour ce faire, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer au sein du groupe de travail sur l'expertise d'une juriste qui est Anne-Laure Sterrin, qui nous est très précieuse et qui participe activement au sein du groupe de travail. Pour la coordination du groupe, donc je vous ai dit qu'il est coordonné depuis sa création, qui date de 2011, par Véronique Ginouves. Et à l'époque, elle a cofondé ce groupe de travail avec Pascal Garré, qui a quitté ce groupe de travail pour des raisons professionnelles. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe en 2014, suite à ma prise de fonction sur les enjeux d'open access à l'Université d'Aix-Marseille. Et après une année de collaboration avec Véronique, j'ai accepté d'en assurer le copilotage. Donc depuis 2015, toutes les deux, nous copilotons ce groupe de travail, qui est soutenu par deux consortiums, le consortium Archives des ethnologues et le consortium Musica, donc tous deux rattachés à Humanum, qui soutiennent le projet. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les membres actifs du groupe de travail, ils sont tous mentionnés sur le carnet de recherche que je vous présenterai dans l'onglet « Qui sommes-nous ?». Et on est une équipe d'une quinzaine de personnes qui sont sensibles et sensibilisées à ces questions et qui essayons de construire des réponses collectivement. Les objectifs de ce groupe de travail, c'est tout d'abord de réfléchir aux enjeux éthiques et juridiques, d'arriver à proposer des bonnes pratiques, mais j'irai au-delà, c'est intéressant bien sûr de proposer des bonnes pratiques. L'étape suivante, elle est plus complexe, c'est de les formaliser et de voir comment on arrive à créer un guide, un recueil de bonnes pratiques. Ce qui a aussi motivé le groupe de travail, c'était de réfléchir sur les données de la recherche en se posant un certain nombre de questions, à la fois éthiques et juridiques, tout au long de la chaîne de production des données, c'est-à-dire de la préparation de la recherche. Et c'est intéressant ce qui était dit dans la présentation précédente, c'est avant de partir sur le terrain qu'il faut également se poser ces questions éthiques et juridiques. Donc tout le travail de recherche en amont, qui est déjà en tant que telle une étape dans les questions qui vont être abordées, les questions qui vont concerner la collecte en elle-même des données, la question du traitement, de l'archivage, des descriptions des données, qui va être une troisième phase qui a été identifiée par le groupe de travail, la question de la diffusion des résultats de la recherche. Est-ce que les données, on les dépose dans un entrepôt? Est-ce qu'on les dépose dans une archive ouverte? Est-ce que certaines données n'ont pas vocation à être diffusées? À partir de quand on estime qu'il y a un critère de confidentialité qui doit s'appliquer? Et enfin, le dernier axe, l'axe de la réutilisation des données, puisque dans une logique de science ouverte, si on ouvre nos données, c'est également pour en permettre la réutilisation par d'autres chercheurs, par d'autres communautés. Et donc, il y a d'autres questions qui vont se mettre en place. Pour nous accompagner dans ces réflexions, nous avons souhaité faire appel à un comité scientifique donc, qui accompagne le groupe de travail et qui est composé donc, de Florence Descamps, de Laurent Doucet, de Mélanie Dulon-de-Rosnay, de Lionel Morel, donc, collègue qui est conservateur également de bibliothèque et qui est juriste, Philippe Mouron, et Stéphane Pouillot, qui était présent ce matin et qui sont très actifs dans leurs différentes approches des données, ce qui nous permet d'avoir une vision exhaustive et assez complète du cadre à proposer. Sachant que pour toutes les questions que vous vous posez, les réponses seront multiples. Et je vous propose de partir sur un cas pratique qui fait la transition avec la présentation précédente, à qui appartiennent les enregistrements de terrain? Alors, c'est une question qu'on apprécie toujours avec Véronique, parce que on se rend compte de la complexité de la réponse. Spontanément, vous diriez quoi? À qui appartiennent les enregistrements de terrain? Aux chercheurs, effectivement, on peut se dire c'est aux chercheurs que reviennent les droits et qui peut effectivement se manifester comme étant titulaire de ces droits. Au laboratoire, il ne faut pas oublier non plus le laboratoire, il peut aussi revendiquer des droits sur ces enregistrements. Les personnes qui ont été représentées, qui ont été enregistrées, tout à fait, quels ont été leurs consentements? Est-ce qu'on a recueilli ce consentement par contrat? Effectivement, les financeurs, est-ce qu'ils ont un droit sur ces données? Et de quel type va être ce droit? Les chercheurs, les financeurs, les institutions, les personnes enregistrées. Pourquoi pas penser aussi aux droits des techniciens qui ont participé à la prise de son, par exemple? Et on se rend compte, rien qu'en ayant fait un rapide tour de table, que pour une question qui semble plutôt assez bornée, ben on se rend compte qu'on est dans une configuration qui est multiple, qu'on va avoir des droits pour les financeurs, des droits qui vont être reconnus aux chercheurs, aux techniciens, aux informateurs, peut-être même aux sociétés au sein desquelles ont été créés les documents, et à l'institution qui va finalement conserver ces documents, qui va participer à leur archivage. Ce que je voulais vous montrer au travers de cet exemple, c'est la méthode qui a été retenue par le groupe de travail. L'idée de ce groupe de travail, c'est partie des questions pragmatiques que se posaient les chercheurs. Et l'enjeu, c'était d'y apporter des réponses. Et assez naturellement, l'idée d'ouvrir un carnet hypothèse a été émise pour justement faire de courts billets qui reprennent ces questions en essayant d'y apporter les réponses les plus concrètes possibles. Le carnet de recherche hypothèse, il s'appelle Éthique et droit, et vous le voyez dans sa structuration, il reprend les 5 axes des données, de la chaîne de production des données, avec à chaque fois des billets qui vont venir éclairer un de ces aspects ou plusieurs de ces aspects. Et par exemple, pour le cas concret qu'on a abordé précédemment, vous allez pouvoir trouver les billets suivants. Par exemple, qui est l'auteur de la transcription d'une enquête de terrain? Un billet qui a été rédigé par Florence Descamps et Véronique Ginouves. Un autre billet qui vient compléter cette proposition, c'est comment bien rédiger un contrat de cession de droit pour un enregistrement de terrain. C'est-à-dire on a des billets qui vont être plutôt liés à les questions qu'on va se poser, le cadre tel qu'il peut être fixé. Et après, l'enjeu, c'était également de proposer des exemples de contrats, des modèles qui peuvent servir, justement être réutilisés par d'autres chercheurs sur leur enquête de terrain pour leurs enregistrements. L'idée, c'était de faire circuler le plus facilement possible les informations que nous-mêmes, nous avons pu recueillir, les questions qui nous ont été posées, et de créer via ce carnet de recherche un outil qui puisse servir à la communauté. Et puis, l'idée également de ce carnet, c'est de voir l'évolution, en fonction des évolutions réglementaires, légales, en fonction également de possibles jurisprudences. Et donc, vous allez trouver des billets plus actualisés, notamment par Anne-Laure Sterrin. Est-ce que le chercheur, comment le chercheur utilise des sources sonores ou audiovisuelles qui existent déjà? Comment il peut les réexploiter? Comment il peut réutiliser les données présentes? Voilà comment se présente le carnet de recherche. Vous allez trouver également des billets sur des thématiques assez générales, comme par exemple un point sur les données à caractère personnel, avant les changements qui vont intervenir dans le courant de l'année 2018, pour voir déjà quel est le cadre actuellement en vigueur. Et puis vous avez des billets qui vont être écrits notamment par des membres du groupe de travail. Et là, je pense ici à Caroline Abella, qui a proposé en mars 2017 un billet qui a été extrêmement consulté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions suscitées par ce billet. On a vu les statistiques de consultation exploser. Comment faire pour diffuser des photos sur une archive ouverte? Et le billet de Caroline proposait une liste autant de possibilités au sein desquelles pouvaient piocher les chercheurs pour, par exemple, déposer avec une licence ouverte, avec une licence Creative Commons ou avec une licence ouverte Etalab, en expliquant à chaque fois quels étaient les différents engagements à partir du choix de la licence. Je vous l'ai dit également, l'enjeu, c'est de faire des points sur l'actualité juridique qui peut concerner la question des données. Et donc, on a un dernier billet qui date de septembre 2017 sur les enjeux de la publication pour les chercheurs à jour de l'impact de la loi pour une république numérique, et notamment de l'article 30 et de l'article 38 qui permettent aux chercheurs de déposer dans un cadre légal qui est garanti et également qui permet l'exploitation des données. Le carnet, ça a été vraiment le mode privilégié d'expression pour le groupe de travail, et ça continue de l'être. L'enjeu, c'est vraiment de l'alimenter. Mais il est apparu également important de faire des journées d'études sur des thématiques spécifiques, en plus des échanges qu'on peut avoir entre nous et qui permettent de rédiger les billets sur le carnet hypothèse. Je vais prendre l'exemple de la dernière journée qui a eu lieu en 2016, où on s'est posé la question de quelles sont les questions éthiques et juridiques à prendre en considération dans le cadre des collaborations scientifiques à l'échelle européenne. Puisque là, on est sur le cadre réglementaire français, mais qu'est-ce qui se passe pour les chercheurs qui sont dans des collaborations européennes? Quel type de droit s'applique? Qu'est-ce qu'on fait si on a des jurisprudences ou des législations qui sont contradictoires? Et on avait choisi pour avoir un thème spécifique et en lien avec le consortium qui nous soutient, de prendre des retours d'expérience dans le domaine de la musique. Et donc si vous êtes intéressé par le compte-rendu et les retours d'expérience qui ont été présentés lors de cette journée, c'est présenté donc dans un billet disponible sur le carnet. Et de la même manière qu'on a construit finalement le carnet éthique et droit, les journées d'études, elles sont constituées de conférences, de prises de parole qui vont situer le contexte global du débat, et ensuite de plusieurs retours d'expérience pour justement voir des cas concrets et voir les réponses qui ont été apportées par les chercheurs, par les institutions engagées. Pour finir toute cette valorisation sur les questions éthiques et juridiques en matière de diffusion des données, il nous a semblé important de matérialiser aussi toutes les réflexions qui sont présentes dans le carnet hypothèse par un recueil, un guide de bonnes pratiques qui proposerait des bonnes pratiques en fonction d'exemples concrets, bonnes pratiques à la fois toujours de l'ordre éthique et également de l'ordre juridique pour la diffusion des données en sciences humaines et sociales, même si ça a été souligné, on voit qu'en sciences et techniques et médicales, on peut être sur des dispositifs qui sont similaires. Mais en tout cas, au niveau du groupe de travail, c'est pour le moment surtout axé sciences humaines et sociales. L'enjeu, c'était de voir comment rédiger collectivement un recueil de bonnes pratiques en reprenant les 5 axes de la chaîne de production des données, la préparation, la collecte, le traitement, la diffusion et la réutilisation. En 2015, on a eu la chance que ce projet de guide soit labellisé par Daria. Et nous avons souhaité une structure du guide en accord avec le comité scientifique qui supervise le projet autour de 2 parties. Donc une première partie qui va s'organiser autour des productions qui ont déjà été amorcées, qui ont déjà été rédigées par le groupe de travail, que ce soit les interventions lors des journées d'études, que ce soit les billets, et notamment les billets rédigés par Anne Lorsterin, qui est la juriste qui accompagne le groupe de travail, et des articles des membres du comité scientifique. Et pour la deuxième partie, nous avons souhaité lancer un appel à communication en septembre 2016 pour sélectionner des contributions, des retours d'expérience très pratiques, les questions au quotidien qu'ont pu se poser des institutions, des chercheurs dans le cadre de leur collaboration, dans le cadre des projets qu'ils ont. Ouverture donc de l'appel à communication à la rentrée universitaire 2016, qui a permis, et ça a été une grande surprise, et ça nous a également conforté dans l'idée qu'il y avait une forte demande sur ces questions-là. Nous avons reçu plus d'une quinzaine de contributions qui a conduit à une relecture en aveugle du comité scientifique à retenir 12 contributions. Ces 12 contributions, elles s'articulent autour de 3 thématiques. Celle des archives orales, qui posent des questions capitales en termes de réutilisation des données, de questions d'enregistrement sonore, vous les avez d'ailleurs soulevées au cours de cette journée. Une deuxième thématique qui est les données sensibles de la recherche. Qu'est-ce qu'on fait avec les données qui comportent une dimension confidentielle, qui peuvent nécessiter du coup une dimension de confidentialité? Et puis, une troisième partie, en lien notamment avec les différentes évolutions du droit, et notamment la loi pour une république numérique, les enjeux soulevés par le TDM, l'évolution du droit en matière numérique. Donc, on aura une deuxième partie du guide construite autour de ces 3 axes. Pour le guide de bonne pratique, à l'heure actuelle, il est en cours de relecture. Et la publication est donc prévue en 2018. Tous les articles seront diffusés en licence Creative Commons. Ça, c'était un choix qui a été partagé par à la fois l'ensemble du groupe de travail, le comité scientifique et tous les auteurs des contributions du guide. Donc tout pourra être réutilisable. Le choix que nous avons fait en termes d'édition, c'est qu'une version numérique sera disponible sur Open Edition Books, donc accessible en libre accès. Et nous avons également souhaité qu'une version papier soit publiée aux presses universitaires de Provence, un choix qui nous tenait à cœur à l'Université d'Aix-Marseille, puisque c'est un éditeur qui a pris des engagements forts en matière d'open access, notamment leur politique en matière de dépôt sur les archives ouvertes et plus spécifiquement sur HAL, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, dans le cadre de la loi pour une république numérique, en sciences humaines et sociales, les articles de revue peuvent être diffusés dans leur version, la dernière version acceptée pour publication, donc la dernière version auteur, 12 mois après la publication par l'éditeur. Les presses universitaires de Provence ont fait un choix engagé en disant nous souhaitons aller plus loin que ce que permet aujourd'hui la loi française et nous autorisons l'ensemble de nos auteurs pour nos revues, mais également pour les articles qu'ils publient dans des ouvrages collectifs. Ils sont autorisés à déposer sur une archive ouverte le PDF éditeur pour justement valoriser le travail éditorial qui est mené par les équipes. Et le PDF éditeur peut être déposé dans une archive ouverte immédiatement en même temps que la publication, immédiatement après la publication. Et donc, effectivement, nous avons souhaité collaborer avec les presses universitaires de Provence qui permettront qu'une version papier du guide soit présente également et puisse être diffusée. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions.
Si vous avez travaillé sur les données des doctorants, Les données des chercheurs non titulaires, les docteurs.
Est-ce que vous avez une idée de billet à ce sujet? Parce qu'effectivement, je crois que ça n'a pas été traité, la question des données sur les doctorants, et c'est une très bonne question que vous soulevez. Je pense que ça va être un des axes de réflexion à ouvrir. Est-ce que vous avez concrètement constaté des questions qui se posent par rapport aux doctorants, puisqu'ils ont quand même un statut d'auteur, donc il y a tout le droit d'auteur qui peut leur être reconnu. C'est par rapport à la question... L'absence de financement, oui. Alors, sur ces questions-là, en termes de diffusion de leurs données, ils sont quand même rattachés à une équipe de labo. Donc après, c'est vrai que c'est tout ce qui se rattache au labo et les méthodes employées au sein du labo qui peuvent, dont ils peuvent se servir. J'essaie de voir précisément quel cas de figure vous évoquez par rapport à la réutilisation des données ou eux-mêmes à leur production de données.
Par exemple, un chercheur qui a été doctorant il y a 10 ans, sans appartenir à une équipe de recherche, il travaille sur ses données aujourd'hui. Les entretiens qu'il a conduits.
À qui appartiennent-ils? Je comprends, oui. La propriété intellectuelle lui reviendrait. C'est lui qui a mené ces entretiens. Donc s'il a recueilli par contrat l'accord de ceux qui ont été interviewés, de ceux qui ont été témoignés, il peut réutiliser. Si ça a été prévu dans le contrat, il peut réutiliser ses enregistrements, par exemple. Oui, lui.
Mais si la question se pose de retraiter aujourd'hui dans l'unité dans laquelle il appartient, on n'est pas sur des...
Rattaché, oui, je vois ce que vous voulez dire. Du coup, il y aurait une exploitation de ces données par l'institution alors qu'elles n'ont pas été financées par l'institution. Mais
c'est juste une question. Oui. Avec un chercheur qui travaille aujourd'hui dans mon unité et qui a fait sa thèse à partir d'archives papier à Aix. Qui ne pouvait pas être reproduit, photocopié, et qui a saisi, en fait...
Qui a fait tout un travail de ressaisie.
Qui a servi à alimenter sa thèse. Et voilà, et on est au moment où on a parlé de type de données, celles-ci sont venues sur le tapis. Donc lui-même me dit qu'il est amené individuellement à les signaler ou à donner des extraits de ses notes à des personnes avec lesquelles il est en contact qui
parlent
de ce sujet. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là dans le cas des données.
Je comprends, on est sur un cas qui est spécifique. Et qui poserait aussi du coup des questions éthiques à ce qu'on fait par rapport à ces données.
Voilà, si de les traiter.
Pour préciser ma question, il y a deux cas de figure extrêmes. La position du chercheur qui dit « mes données m'appartiennent ».
Oui.
La position de l'institution qui dit
« il faut ouvrir ».
Les données appartiennent au CNRS, par exemple. Où se situe le doctorant ou le docteur? Alors ça peut être des enquêtes, ça peut être des entretiens, ça peut être des corpus d'archives, ça peut être toutes sortes de données.
Je pense qu'après, c'est pas tellement le droit qui fait obstacle à la diffusion, ça va plus être lui, son souhait. Est-ce que tant que, par exemple, sa thèse n'a pas été publiée, il ne souhaite pas diffuser les données ? C'est pas du, finalement, le droit ici va pas être forcément le critère bloquant. Ça va plus être, lui, sa volonté en tant que doctorant. Est-ce que je veux diffuser ces données avant la publication de ma thèse ? Ou est-ce que j'attends la publication de ma thèse pour les diffuser ? Et là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de l'accompagner dans ses réticences, d'essayer de comprendre quelle est sa crainte. Parce qu'il peut avoir intérêt à ouvrir ses données, ne serait-ce que pour montrer que c'est lui-même qui les a générées, qui les a produites. Donc ça peut être aussi vu, le fait d'ouvrir ces données, quand on invite, nous, les doctorants à déposer, par exemple, dans une archive ouverte, ça permet aussi de reconnaître la paternité de leur travail, via l'horodatage qui est permis, par exemple, dans une archive ouverte. Donc il faut voir aussi que c'est pas le droit qui va être bloquant, mais le droit, au contraire, ici, le fait de mettre en libre accès peut apporter une protection juridique qu'il n'aura pas tant que c'est ses travaux sur une clé USB et qu'il n'y a pas de reconnaissance de finalement la paternité du travail.
Oui, merci pour cette présentation qui donne envie ici. Merci Isabelle, merci pour ta belle présentation qui donne envie en fait de plonger dans ce document hein, qui nous sera très utile. Alors moi c'est une petite question sur les aspects juridiques. Normalement j'imagine que dans votre guide vous allez pouvoir un peu dissocier ce qui est du cadre réglementaire obligatoire, de ce qui est préconisé.
Exactement.
Au niveau
oui.
juridique
oui.
Et aussi tu parlais de faire usage de pragmatisme et donc de mise en place de pratiques de données qui sortent un peu de ce cadre juridique. Est-ce qu'on pourra bien avoir un peu une vision claire de ça hein ? Oui.
Effectivement, dans la première partie, on partira en fait de l'état du droit, donc il y aura un rappel du contexte. Et la deuxième partie sera vraiment axée sur des cas concrets. Comment concrètement on fait dans le cadre du TDM, par exemple ? Comment on fait pour réutiliser des archives sonores ? Comment faire avec des données qui ont un caractère confidentiel ? Là, on va trouver les bonnes pratiques qu'ont mis en place des équipes, les questions qui se sont posées, parce que c'est vrai, en droit, la réponse, bien sûr, est capitale, mais c'est aussi les questionnements qui ont mené à cette réponse. Et l'idée, c'était vraiment aussi que les retours d'expérience soient axés sur les questions que se sont posées les équipes au moment de la recherche, à quel moment elles se les sont posées. Et comment on peut essayer, nous, après, au quotidien, d'en tirer des axes généraux, des principes de bonne pratique qui pourront faire sens dans nos propres pratiques.
Merci Isabelle de cette intervention. Moi, j'ai une question un peu en aval.
D'accord.
Est-ce que vous avez commencé à traiter la question des données liées aux publications ? Qui, par exemple, pourrait être dans le cadre d'un contrat avec un éditeur international, céder entre guillemets à cet éditeur avec un article. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on préconise ? Qu'est-ce qu'on répond au chercheur qui dit moi, je voudrais publier dans telle revue, mais il me demande mes données en même temps. Est-ce que c'est une cession de droit ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que le chercheur garde comme droit, etc., etc. Parce que du coup, moi, c'est une question qu'on commence à me poser et auquel je n'ai pas du tout de réponse, donc qui m'intéresserait aussi.
C'est effectivement problématique. Aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs demandent aux chercheurs de céder des droits sur l'article, mais de céder également des droits et de verser les données. Est-ce qu'il y a besoin de céder les données à un éditeur ? Moi, je partirai de la question la plus pragmatique possible. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de dire à l'éditeur de voir, et là, c'est là où je vais faire une réponse théorique, effectivement, on voit les limites après dans la pratique, mais ça serait peut-être de demander, quand on dit négocier avec l'éditeur, ça peut être aussi tout simplement barrer la ligne dans le contrat qui a été fourni. Alors, je sais que ça peut être encore plus problématique quand le contrat se résume à une croix à cocher. ce qui existe chez certains éditeurs. Mais quand on a un document papier, enfin matérialisé, on peut barrer la clause qui ne nous convient pas et demander par exemple à ce que les données effectivement seront versées, mais versées dans un des entrepôts par exemple qui nous a été présenté ce matin. Ce qui permettrait à l'éditeur d'avoir accès aux données, puisque c'est ça la condition qu'il demande, mais derrière on fait une ouverture pour toute la communauté. Mais alors, enfin moi, très concrètement, à l'université d'Aix-Marseille, on a ces questions qui se posent et des chercheurs qui nous alertent en nous disant désormais, j'ai dans mon contrat de session une mention sur les données. Et la réponse qu'on leur propose, c'est si c'est obligatoire, effectivement, dans ce cas-là, vous les déposez sur des outils comme Nakala, sur des outils qui ont été présentés comme ceux de ce matin, pour que, dans ce cas-là, vous les mettez en libre accès. Il n'y a aucune raison qu'elles aillent exclusivement à l'éditeur. Au quel titre ? À quel titre ? Pourquoi est-ce que lui-même va derrière travailler le jeu de données ? C'est ça aussi, effectivement. S'il y a quelque chose qui est fait par rapport au jeu de données, mais ce n'est pas le cas. Enfin, dans les cas qui m'ont été présentés, j'imagine que pour toi, c'est pareil. Ils ne veulent pas exploiter les données. Ils veulent simplement avoir ces données. Donc, ça pose... Odile, je ne voulais pas le dire, mais on voit de toute manière, hein, si on voit le modèle économique aujourd'hui des éditeurs prédateurs et des éditeurs qui sont cotés en bourse, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui dans l'édition scientifique, tous les éditeurs sont confrontés à la même logique économique, hein, je fais bien la part des choses, mais on sait pertinemment que le modèle économique des éditeurs qui sont cotés en bourse n'a pas vocation à perdurer. On nous parlait ce matin du schéma de la longue traîne, on est vraiment dans ces réflexions-là. Donc, ils ont eu une économie qui a été fondée sur l'exclusivité des droits liés à la publication. Aujourd'hui, comme les articles peuvent être déposés dans des archives ouvertes, il y a une autre mode de diffusion des articles. Effectivement, l'enjeu se déplace des articles vers les données. Et c'est là où il faut être particulièrement vigilant et alerter, sensibiliser nos communautés scientifiques en leur disant peut-être le retard qui a été pris par rapport aux publications et le fait que ça ait pu être privatisé par les éditeurs avec le problème de transmission du savoir qui se pose, ne le reproduisons pas cette fois-ci sur les données. Et ayons cette fois-ci cette longueur d'avance en proposant des outils, et c'était le cadre de la journée, de présenter justement les outils qui peuvent permettre de mettre en libre accès les données. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, en effet.